Retour vers le passé, une émission proposée par tous les élèves de 5e du collège de Gémozac. Suivez les aventures historiques de nos héros sur les routes de Pau.
De août 1180, les trois collégiens décident de rester et visitent l'abbaye de Saint-Blanceau, qui joue un rôle important dans le commerce du sel. De son côté, Enguerrand leur révèle « J'ai un secret à vous dire. Je suis le seul à vous voir. Pour toute autre personne que moi, vous n'existez pas. » Ce qui les rend méfiants à son égard. Puis Johan entend une voix qui lui demande de trouver un objet pour venger un aigle. Il le trouve malgré lui. Leur téléphone les transporte au 29 septembre 1180, jour où Geoffroy III part à la chasse et fait le bilan de ses fiefs.
Pendant que Geoffroy se perd en conjectures et réflexions, les femmes sont au château et mènent belle vie également. Réunies dans la chambre d'Agnès qui est chauffée par des tapisseries murales représentant des scènes d'amour courtois et par un bon feu de cheminée, ces dames discutent, qui en brodant, qui en jouant aux échecs. La femme du seigneur de Pont porte une robe près du corps avec de larges manches, parée d'une ceinture large et longue marquant la taille, se croisant dans le dos pour se nouer devant. Elle cache le corset. Un long amigo bordé de bandes de tissu d'or, d'argent et de soie encadre son encolure et descend jusqu'au bas de la robe. Un cercle métallique est posé sur le voile, brodé, en mousseline, masquant les nattes tressées des deux côtés de la tête, maintenues par un ruban de couleur. Une aumônière complète sa tenue. Mao de Berneuil fait part notamment à ses amis du dernier roman que s'arrachent les jongleurs, le roman de Renard.
Il est regrettable que ce livre ait été écrit. Heureusement que les paysans ne savent pas lire, car on s'y moque de nous.
Si c'est le cas, j'espère que les clercs ne vont ni le copier, ni l'ébruiter.
Mais pourquoi et comment nous tourner en dérision?
Les écrivaillons Pierre de Saint-Cloud et Richard de Lison nous reprochent d'avoir des idéaux de courtoisie comme ceux décrits dans les histoires de Chrétien de Troyes et de vivre en paillard ravageur. Bref, de ne pas respecter les valeurs que nous défendons.
Ce sont des parvenus, des petits bourgeois qui ne sont pas issus de la noblesse.
Ils ne sont même pas chevaliers. De quoi viennent-ils se mêler? Qu'ils retournent à l'école et nous laissent diriger le pays comme nous l'avons toujours fait jusqu'à présent.
Oui, mes amis, vous avez raison. Ils auraient pu se contenter de reprendre les légendes paysannes sans les moderniser et les adapter à notre société. C'est cruel de nous critiquer ainsi, nous ne le méritons pas.
Quelles légendes ont-ils reprises?
Le personnage principal est un goupil prénommé Renard. C'est un bandit qui tue pour se nourrir, qui attrape les gens par la ruse, même ceux de sa famille. Sa principale victime est son cousin Isengrin, un loup très naïf. Tous les animaux qu'il côtoie lui en veulent à cause de ses méfaits, tout en admirant secrètement sa ruse qui le pousse à agir pour nourrir les siens. Le larron s'en sort toujours, sauf un jour où le lion, qui est le roi, intente un procès contre Renard. Il est condamné à mort, mais son épouse offre plusieurs coffres d'or à la cour qui la quitte.
L'histoire de quelqu'un qui tue ou vole pour se subsister n'est pas nouvelle. En effet, ces auteurs n'ont pas d'imagination.
Ils en ont davantage en choisissant des animaux qui représentent des fonctions, même si Ésope l'a déjà fait.
Surtout, ils font une forte critique de la justice. Geoffroy ou d'autres seigneurs ne sont pas d'hommes à se laisser acheter ainsi. Ce sont ces deux scribes qui devraient passer devant un tribunal.
Enguerrand est gêné. Lui, qui est chargé de faire la lecture à ces dames, ne sait quel titre choisir. Isabelle, qui l'accompagne, car les garçons ont suivi la chasse, le surveille du coin de l'œil. Elle a prétexté, sans trop mentir, aimait trop les animaux pour assister à la curée, mais elle s'est mise en tête de ne pas laisser seul ce page ambitieux. Face au silence qui suit la controverse du roman de Renard, le page opte pour un terrain plus neutre, la musique. Il va donc chercher une vielle, sorte de violon, ainsi qu'une flûte. Isabelle sourit. Elle pense à son père qui lui rabâche souvent les oreilles avec les cours de musique pendant lesquels on le forçait à jouer de cet instrument quand il était au collège. Son père. Il y a un tel écart entre ce qu'elle vit en cet instant précis et ce qu'elle vivait avant cette balade en forêt, qu'elle ne sait plus si elle doit pleurer ou être heureuse. Qui n'a jamais rêvé de vivre un bref instant à une période ancienne de l'histoire de notre pays? Elle a la chance de le faire, certes contre son gré, mais elle n'en profite plus vraiment. Elle met la main à sa poche et sent le dessin de la comète. Ce petit papier la rassure. Il est le lien entre les deux époques. Lorsqu'elle sera revenue définitivement en 2019, du moins elle l'espère, elle aura ce petit papier sur elle, preuve, s'il en faut, de son retour vers le passé. Elle est tirée de ses pensées par la voix enfantine d'Enguerrand qui entonne un air enjoué, repris par les dames de compagnie d'Agnès. Sa diplomatie a su calmer leur colère. Certaines d'entre elles ont repris leur jeu, d'autres ont envie de danser, comme Mathilde, une grande et mince jeune femme, à la belle chevelure blonde. Elle porte une robe verte avec un long voile et des ballerines blanches. Avec ses yeux verts et ses taches de rousseur, elle a un charme incontestable qui n'a d'égal que sa bonté. Elle est venue avec ses enfants, Childebert qui s'entraîne à écrire, Jeanne qui file du lin et Astrid qui brode. L'obscurité tombe vite en cette saison et les chasseurs ne vont pas tarder à rentrer, leur gibecière bien remplie. Hommes et femmes vont se retrouver autour de la table et faire la fête une bonne partie de la nuit, comme tous les jours de la saison de chasse. Les trois collégiens se retrouvent également pour se raconter leurs journées respectives. Enguerrand est en partie s'occuper des chevaux avec les palefreniers, ils sont dans la chapelle. Guillaume se moque de Johan.
« Ne t'assois pas, tu vas déplacer une pierre et trouver un souterrain !»
Il ricane, mais il est surtout jaloux au fond que ce ne soit pas lui qui l'ait trouvé.
« C'est très drôle, hein ?»
Comme toujours, Isabelle dédramatise la situation par sa bonne humeur. Elle rit.
« Arrêtez de vous chamailler, les garçons. Essayons plutôt de comprendre pourquoi on a deux fois le même dessin et pourquoi ça doit venger un aigle. Moi, à part Napoléon Ier, je vois pas de quel aigle il peut s'agir. Mais comme on n'est pas à la bonne époque... »
Manquerait plus que ça. On aurait été capable de se retrouver en Russie à moins 50 degrés.
Les enfants ont retrouvé leur humour et sont heureux de partager ce moment uniquement à trois, sans Enguerrand. Ils se sentent plus libres d'exprimer leurs émotions et leurs sentiments sur cette étrange aventure. Leurs rires résonnent contre les murs. Enfin, ils se détendent et rient à gorge déployée, leurs visages tendus vers la coupole. À ce moment-là, un ray de lune passe par un vitrail et éclaire un recoin derrière l'autel.
Oh, c'est beau! La lune fait briller le ciel même à l'intérieur.
Il désigne un petit point scintillant. Intrigués, les trois enfants s'en approchent et voient, suspendu au plafond, une béquille où il est gravé Ryu, avec sa reproduction sur un petit bout de papier déchiré. À peine le temps de faire remarquer qu'il s'agit du même, le portable d'Isabelle s'éteint subitement au moment même où celui de Johan clignote. Quant à celui de Guillaume, il ne cesse de vibrer pour s'arrêter brusquement. Machinalement, il le prend en main, l'écran s'éclaire et indique la date, 28 décembre 1178.
Chapitre 5. Veni, vidi, benedicti.
Tiens, pour une fois, on n'arrive pas au château de Pont.
Quelle foule ! À ce temps-là, les gens n'ont pas peur de braver le froid.
Que se passe-t-il pour qu'il y ait tant de monde ?
Enguerrand va certainement nous expliquer.
Ouais, il n'aura jamais une occasion de se faire valoir.
Vous êtes méchants, les garçons. Moi, grâce à lui, je comprends mieux ce que je vois. Mais j'avoue, il me fait froid dans le dos parfois, à faire son vieux alors que c'est nous qui sommes ses aînés. Je ne sais pas si ça vient de son époque, de ce qu'il vit, mais n'empêche, là je n'adhère plus. En tout cas, moi je m'y fais à ce voyage dans le temps complètement improbable. Pas vous, Guilhem et Jeanne ?
Pour toute réponse, les garçons grommellent. Isabelle éclate de rire et comme à chaque fois, sa bonne humeur les désarme. Ils se dirigent vers le groupe tout en cherchant Enguerrand du regard. Le naturel de Guillaume reprend le dessus.
Celui-là, quand il est là, ça nous énerve et quand il n'est pas là, on s'inquiète.
Isabelle lui donne un gros coup de coude dans les bras et pose sa tête sur son épaule.
Arrête, moi je lui accorde le bénéfice du doute. Il est rusé mais semble franc.
Guillaume rougit et plonge ses yeux dans ceux de l'adolescente.
Ok, je t'écoute, mais c'est bien parce que c'est toi.
Il cède. Elle lui sourit encore, toute rouge elle aussi. Soudain, un mouvement de foule se fait. L'abbesse Hildegarde de Bingen, qui a célébré la messe de Noël à Sainte, vient d'arriver par la Via Turonensis, la route de Tours. Elle est accompagnée de nombreux pèlerins, allemands comme elle, ou qui parlent une autre langue, proche de celle-ci, ou français. Beaucoup sont estropiés.
Si je fais halte sur le chemin de Compostelle ce jour à Rioux, c'est pour aider à la reconstruction de l'église. Il y a parmi les pèlerins des compagnons réputés dans diverses corporations, notamment dans la taille de la pierre et de la sculpture. Et bien sûr, je ne pouvais pas, en m'arrêtant ici, ne pas descendre dans la crypte. Enfin, pour que ma venue soit complète, permettez que je bénisse ce chantier ainsi que tous ceux qui y participent à la fin de la messe.
Certains se dirigent alors en rampant ou sur les genoux vers un porche situé sous l'église en construction. Hildegarde y descend en dernier. Quelle n'est pas la surprise de nos trois collégiens de voir, suspendus au plafond, des centaines de béquilles. La messe est pleine d'émotions et ce lieu sacré est encore plus impressionnant avec la présence d'une personnalité si proche de Dieu. Comme annoncé, à la fin, elle appose ses mains sur les pèlerins. Les personnes blessées prient, laissent leur support dans l'espoir de pouvoir sortir de la crypte sur leurs deux pieds valides. La foi aidant, certaines y parviennent et la présence de l'abbesse allemande les transcende d'autant plus. Puis, elle prend l'eau bénite et le goupillon, fait le signe de croix sur les pierres du bâtiment et prononce quelques vœux. Elle termine son discours non sans humour.
Ouene, Widi, Benedixi.
Baptise l'église du nom de Notre-Dame à la demande des villageois et des pèlerins. À la sortie de la crypte, un grand silence règne sur le parvis, puis tous reprennent leurs activités. Une centaine de personnes s'affairent à présent autour de l'église, car les habitants de Riou sont venus entre-temps les rejoindre. Beaucoup ont des charrettes et c'est un va-et-vient incessant de matériaux. C'est un joyeux mélange cosmopolite de bonne volonté qui sont heureuses d'être ensemble et de répandre le bien autour d'elles. L'un des pèlerins se propose pour aider Foulque, un tailleur de pierre de 20 ans qui n'a pas eu la chance de faire son compagnonnage. Il regarde au sol le plan fait et se dirige vers un bloc déjà dégrossi, car ces derniers sont extraits de la carrière de Ténac et sont débités sur place à l'aide d'une massette avant d'être taillés grossièrement et transportés jusqu'au chantier. Il prend un ciseau et un maillet et intègre l'équipe aussitôt. Foulque, qui s'énerve facilement, est soulagé d'avoir une main-d'œuvre supplémentaire. Le nouveau venu débite un arc avec précision selon le modèle en bois dont il dispose et l'amène au mortelier qu'il ajoute à l'édifice pierre par pierre. C'est une bonne recrue, d'autant plus qu'il est aussi sculpteur. Du coup, il dessine la Vierge et l'enfant en disant qu'il sera fier de l'offrir à la ville. D'autres aident en fonction de leurs moyens. Ils oublient visiblement, le temps de cette fraternité, leurs souffrances et les péchés qu'ils veulent absoudre par ce pèlerinage. Isabelle, Guillaume et Johan sont troublés. Devant la foi de tous ces gens, leur ferveur, devant leur solidarité, leur simplicité, devant la crypto-miracle qui est l'une des clés de leurs énigmes. Ils se regardent dans un long silence que Johan le premier rompt.
Au moins, voilà un bout de papier expliqué.
Et les deux autres, y a-t-il un lien entre cette béquille, Hildegarde et la comète?
À part le fait que les deux petits sont comme des extraits du grand.
Pourquoi l'avoir déchiré en plusieurs morceaux alors?
Il est caché en plusieurs endroits.
Et Enguerrand, que vient-il faire dans cette histoire? Et pourquoi il n'est pas là?
Ben et nous, quel est notre rôle?
Ah là, je pense pouvoir répondre. Reconstituer un puzzle dont on a le modèle. Mais dans quel but?
Quant à Hildegarde, après cette brève halte, elle repart en compagnie de la plupart des pèlerins vers Pont. Elle doit en effet y inaugurer le nouvel hôpital, et c'est une des raisons de sa venue en France, malgré son âge avancé. Une petite route les amène à Cravant, où coule une rivière qui n'est pas encore à sec. Il y a un magnifique magnolia qui fleurira au printemps. Des champs de blé semés depuis quelques mois et des fourrages les accompagnent jusqu'à Gémozac. Ils croisent Michel, un honnête paysan, serviable et travailleur. C'est un homme plutôt sec et vigoureux, un courageux paysan, dont le visage est buriné par la rigueur des hivers et le soleil. À plus de 30 ans, il est déjà marqué par le dur labeur et ses cheveux courts sont déjà gris. Il cultive du blé tous les ans. Il explique à Hildegarde.
Je donne entre 60 et 70% de mon blé au Seigneur et à l'Église pour payer taxes et impôts. Il me reste à peine de quoi vivre et de semer l'année suivante. Lorsque la récolte est mauvaise, c'est la famine assurée. Au printemps, je sème à la main, j'élimine avec patience les mauvaises herbes, puis je récolte l'été avec une faucille. À la saison suivante, je laisse les animaux pâturer sur mes champs. Je laboure avec mon cheval et une harère au début de l'hiver avant que le gel ne durcisse la terre. À tout ce travail pénible s'ajoutent les nombreuses corvées dues au Seigneur, sans compter le bois qu'il faut ramasser pour chauffer la maison lors des longs hivers. C'est une vie de labeur que j'aime malgré tout, mais je vous demande de prier pour les miens et pour moi, ma mère.
Touché, Hildegarde repart en égrenant son chapelet pour cet homme bon et juste. Puis le cortège traverse de petits bois, de ci, de là, qui cachent sûrement quelques animaux sauvages qui hibernent, bien que les défrichements aient dû les faire fuir. Sur la route de Pont, à gauche et à droite, de nombreux rangs de vignes s'alignent avec leurs ceps tout tordus. Le cortège peut déjà apercevoir la tour du château de cette jolie cité médiévale puissante. La Seugne y coule paisiblement.
Laissant à Enguerrand le bénéfice du doute, nos amis profitent à présent pleinement de leur voyage temporel. Le puzzle qu'ils doivent reconstituer a-t-il un lien avec Hildegarde qui revient souvent dans leurs étapes ou avec le page? Si c'est avec les deux, quel lien existe-t-il entre eux? Ils décident de piéger Enguerrand pour en avoir le cœur net.
Isabelle, Guillaume et Johan vous disent à demain même heure
pour la suite de Retour vers le passé sur Radio Pont.